RFI, grand reportage.
Pascal Guéricola.
Cette journée-là, une bonne partie du village amérindien de Mashtoyash au Québec se retrouve à l'église pour pleurer la mort d'un enfant de la communauté. Quelques hommes se refusent pourtant à y rentrer et restent à la porte. À mots à peine couverts, ils se confient leur rage contre une institution religieuse qui leur a volé leur enfance. En près d'un siècle, quelques 100 000 enfants autochtones ont dû fréquenter le système de pensionnats mis en place par le gouvernement canadien. Des pensionnats tenus par des catholiques ou des anglicans. Pierrette Benjamin, une Innu, a vu débarquer des policiers un jour chez elle, il y a plus de 40 ans.
Bon, je vois dans le salon, puis là je vois rentrer deux polices. Dans le salon, on les appelait les polices montées. Et parlaient mes parents. Nous autres, on comprenait pas, nous autres on parlait seulement le montagnard. On regardait mes parents parler avec les policiers. Là. Puis là, ma mère, elle nous regardait, puis elle avait des larmes aux yeux. Mais on ne comprenait pas, nous autres, qu'est-ce qu'ils se disaient. Sans nous avertir, les policiers nous prennent, puis ils nous embarquent. Ils nous amenaient ici, là, justement, dans le bâtiment ici. Là, on s'est séparés de mon frère. Moi, je suis partie avec une religieuse.
La petite Pierrette n'a rien oublié de son premier jour de pensionnat à Mashtoyash.
Dans la rentrée, la religieuse m'a prendre un bain. Elle m'a brossé comme avec une brosse à plancher jusqu'au sein. Ça faisait mal. Ben, je pleurais. Après, j'avais des beaux grands cheveux. Là, mon père s'occupait toujours de mes cheveux. Il faisait des tresses. On coupait les cheveux courts. Bon, c'était plus moi, là. C'était... Puis quand on parlait en Illinois, on mangeait des claques, des coups d'estrade. Ben, moi, je savais pas qu'il y avait une autre langue. J'ai même mangé du savon parce qu'il disait que notre langue était sale, c'était la langue du démon. Puis ça, c'était des religieuses, hein, ils pensaient que... Puis le soir, avant d'aller me coucher avec une de mes copines, on nous attachait toutes les soirs. Du bras, là, tu attachais vers la tête du lit, les jambes, puis ils nous baillonnaient. Peut-être qu'il avait peur qu'on se sauve, je ne sais pas.
Finalement, le père de Pierrette l'a emmené loin du pensionnat quand il a découvert les marques sur le corps de sa fille. D'autres parents, par contre, ont fait confiance aux religieux. Il faut dire qu'ils n'avaient pas vraiment le choix de se plier aux ordres du gouvernement, comme le raconte Yvon Parent. Cet avocat défend des autochtones maltraités dans ces institutions dans les années 50, 60, 70.
Plusieurs cas de police, vu même des enfants, des parents qui étaient en forêt, puis là, ils arrivaient pour venir les chercher, puis les parents disaient de se sauver, puis ils ont tiré un filet de pêche sur la tête pour récupérer les enfants. Là, on parle de village maintenant, mais avant, les gens étaient en forêt. Souvent, ils campaient début juin jusqu'à fin juin, parce que les enfants arrivaient en juin, mais on les avait dit, ils vont revenir en juin. Ils attendaient leurs enfants durant un mois sur le bord de la voie ferrée. Puis leurs enfants arrivaient, ne parlaient plus la langue, ne connaissaient pas l'autorité, puis souvent avaient été perturbés. On retrouve dans beaucoup de dossiers ce que les gens s'en veulent ou en voulaient à leurs parents. Maintenant, ils comprennent, mais en même temps, c'est un impact de vénération. Si tes parents t'ont pas élevé, t'ont eu deux mois dans l'été, puis ça a été tout le temps de se retrouver, puis on retourne au pensionnat. Souvent, quand ils étaient agressés, puis les parents n'ont pas cru la première déclaration, ils y allaient ailleurs, avec leur oncle, leur tante, pour parce qu'ils en voulaient à leurs parents.
C'est pour les aider à mieux s'adapter à leur nouvelle vie que les missionnaires Zoblins fondèrent, avec la collaboration du gouvernement canadien, le pensionnat indien d'Amos. Dans l'ensemble, les jeunes indiens ne fréquentaient jamais autre chose que l'école buissonnière.
C'est à la fin du 19e siècle que le Canada oblige les enfants autochtones à devenir pensionnaires de septembre à juin, avec l'aide des institutions religieuses. L'historien Denis Delage revient sur les motivations de l'État.
Le gouvernement décide de mettre en place ces pensionnats par désespoir. parce que la politique a toujours été de faire disparaître les Indiens, non pas physiquement, mais culturellement. C'est une politique d'ethnocide, et au nom du fait que ce sont des sauvages qui sont arriérés, qu'il faut les affranchir du monde des esprits, des démons et du désordre pour en faire des gens civilisés, et c'est pour leur bien. Et comme l'ensemble des politiques canadiennes qui ont consisté à exproprier les Indiens, à les placer dans des réserves en attendant qu'ils apprennent l'agriculture, qu'ils s'instruisent et qu'ils deviennent de bon gré, de bons citoyens britanniques, voyant qu'on n'y arrivait pas, on s'est dit la seule manière d'y arriver, c'est de rompre le lien entre les parents et les enfants, parce que les parents transmettent ces manières archaïque de vivre aux enfants, et tant qu'il y aura un lien entre les parents et les enfants, on n'arrivera pas à assimiler ces Indiens. C'est une très vieille idée. C'est une idée qui remonte au 17e siècle. C'est également aussi parce qu'il s'agit de périodes où les Indiens se sont expropriés de leurs terres, où ils se retrouvent misérables dans des réserves, ne peuvent plus vivre de pêche et de chasse, n'ont plus accès à leur territoire. La seule manière pour eux de survivre, c'est d'apprendre à lire et à écrire. Au nom de leur bien, on veut leur apporter les lumières de l'éducation.
D'abord, je suis allé, moi, au
le but, je pense, c'était justement de laisser des jeunes dans les pensionnats pour briser un peu la famille, le lien familial, la langue, la culture, la transmission.
Claude Boivin, un Innu de 52 ans, a vécu dans sa chair, à 6 ans, la séparation avec ses 13 frères et sœurs. Au pensionnat, ils ne se voyaient presque pas.
J'avais 9 sœurs et 4 frères, dont on était 14. Donc, j'ai pratiquement pas connu mes sœurs, mes frères, ni mon père et ma mère. Je les voyais seulement que l'été. La plupart que je connais, moi, ça n'a rien amené, le pensionnat, là. Ça a amené le contraire, la destruction, alcoolisme, drogue. J'ai un de mes frères, lui, qui s'est pendu, il a subi des abus. T'sais, ma sœur m'en a parlé après, là, elle s'est suicidé en prison, t'sais. Mon autre frère, lui, est alcoolique. Même affaire, lui était abusé. Il s'est abattu. Il y a bien la violence dans lui. Là, il y en a qui ont subi des violences. Là. On voyait souvent, des fois, rentrer des jeunes dans le bureau là, du prêtre. Là. Ils sortaient de là avec des gros sacs de billes. On le savait que le curé, ça avait amusé. Là.
C'est la vie, fuck that. L'injustice qui t'instruit, mais dans le fond, ça détruit. On dirait que je peux encore entendre les hurlements et qu'on parle de mon histoire. Je trouve ça dégoûtant, mais tiens que ça nous vit. Une mémoire impardonnable, la même vie sale que les enfants de Duplessis. On a tous nos petits soucis, mais quand ça touche toute une nation, moi je me sacrifie.
Les petits sauvages, comme on les appelle alors, n'ont pas la vie facile au pensionnat où règne une discipline de fer. Eux, les fils et les filles du vent et des rivières, se couchent à heure fixe, mangent du gruau plutôt que de la perdrix. Isolés dans un bâtiment souvent à des centaines de kilomètres de leur famille, plusieurs deviennent les objets sexuels des religieux. Dans un des pensionnats, les viols se passaient au confessionnal, comme le raconte l'avocat Yvon Parent. Certains adultes surmontent tout juste leur honte pour témoigner devant la justice et demander une compensation.
Donc venez madame de 60-65 ans qui en parle lors de l'audience pour se libérer de ça. Quoi, souvent, les gens disent, comme ça se fait qu'ils te parlent, toi, ben souvent, je le raconte. Regarde, dans le confessionnal, il te faisait rentrer de son bord et tout ça, puis tu vois la madame qui, les yeux, y ouvre, puis souvent, elle les réconforte en disant, ben vous n'êtes pas la seule, puis il faut vous libérer de ça. Si vous voulez être bien, une fois et demie, ben vous pouvez travailler sur vous. Donc, c'est dans cette optique-là que je travaille, puis c'est une connaissance énorme sur notre histoire. L'audience, souvent les gens voient ça plutôt comme ah, ils vont chercher un montant d'argent ou non, c'est une forme de démarche de guérison. Parce que dites-vous que un secret gardé comme ça, c'est des secrets lourds. Donc c'est toute une forme de réconciliation de paix avec soi-même.
Moi j'ai perdu ma langue là.
Le pensionnat a profondément marqué la vie de l'Innu Claude Boivin.
Des fois on me disait t'es-tu indien toi? Ouais, un peu l'Indien, là, tu sais, j'avais peur de dire ça à des non-autochtones, là, quand j'allais dans des villes partout, là, tu sais. Là, je m'en voulais de m'avoir trahi moi-même, tu sais, hey, je suis en train de dire que je suis même pas Indien, moi. Mais moi, je dis que ça m'a amené à passer pratiquement 20 ans de ma vie à consommer des drogues, des boissons, là, tu sais, à me chercher tout le temps, là, tu sais. Chercher quoi? Je suis quoi, moi, en fin de compte, tu sais?
Il Il y a 17 ans que Claude a réussi à tourner la page et à se libérer de l'emprise de la drogue et de l'alcool, pour finalement réapprendre sa langue. Reste que cette perte d'identité a marqué plusieurs générations. L'historien Denis Delage.
Ces jeunes qui sont passés par ces écoles, quand ils sont devenus parents à leur tour, ils avaient pas les modèles parentaux et ils ont été, ils sont retrouvés perdus, dépouillés de la tradition, des habiletés des parents pour élever les enfants qu'ils n'avaient pas parce qu'ils ont été élevés et éduqués quasiment exclusivement dans le système scolaire, donc hors des rapports affectifs avec les parents. Donc, à cet égard, ça a sûrement contribué à introduire des pathologies familiales.
Ça part du lac Abitibi pour finir des pensionnats enfermés dans des réserves, sans habitat, sans permission. Si tous les coups sont permis, si on prenait leurs terres sans dire merci, ceux qui jouent la game deviennent blame en esti. J'ai pas choisi de faire du rap, c'est le rap qui m'a choisi. La vie, c'est une chanson et c'est elle qui m'a écrit.
Le rappeur algonquin Samian a 26 ans. Dans ses spectacles, il chante souvent ce texte a cappella pour rappeler d'où vient sa communauté. Une communauté qui a tant de mal à se dessiner un présent et un futur entre violence, suicide et toxicomanie. Petit-fils d'une expansionnaire, il porte en lui une partie de cette histoire douloureuse.
Les autres qui ont vécu là-bas, l'interdiction de parler la langue et tout, les abus, tout ça, ça a tellement été transmis dans la génération d'après, la colère, le mal de vivre. Ce qu'ils ont enseigné aux Autochtones là-bas, c'est que c'était des sauvages, c'était du monde qui brûlait des missionnaires et tout. Les Amérindiens qui étaient dans les pensionnats avaient honte d'être Première Nation. Même la langue est mal transmise par rapport à l'autre génération, surtout chez les Algonquins. T'sais. La langue est mal transmise, donc les jeunes de ma génération parlent quasiment plus algonquin. C'est vraiment une langue qui est en train de s'éteindre tranquillement, pas vite.
C'est comme...
Plus de 40 ans ont passé depuis que Pierrette Benjamin se faisait frapper par les religieuses lorsqu'elle parlait sa langue, l'inou. Cette langue, elle l'a pourtant transmise avec fierté à ses enfants et à ses petits-enfants comme Tamissa. Ironie du sort, elle l'enseigne aussi aux élèves du primaire, dans la même salle où pensionnaires ont l'attaché dans son lit. Chaque jour, en arrivant au travail, elle part à l'assaut de ce pensionnat devenu aujourd'hui l'école du village.
Bon, franchement, là, à chaque matin, à chaque après-midi, là, quand je commence à percevoir le bâtiment, je la regarde comme si c'était un monstre pour moi. Là. C'est... Je dis, aujourd'hui, je vais t'affronter encore. Tu sais, je... Non, aujourd'hui, tu ne m'auras pas, là.
On m'attendait là-bas.
Roméo Saganache, un Indien cri de 46 ans, se souvient encore très bien des pleurs des enfants dans le pensionnat où les Anglicans ont tenté de lui extirper sa langue, son identité. Un de ses frères n'est jamais revenu, d'ailleurs. Son corps a été enterré sans pierre tombale. Lui, Roméo, a réussi à s'en sortir, à devenir avocat et homme public.
J'ai perdu mon père très, très jeune. En fait, première année, j'étais au pensionnat. J'ai perdu mon père. On nous a annoncé ça aussi cavalièrement qu'on peut le faire, en nous convoquant au bureau du directeur, qui est un curé. Et pour nous dire, bon, votre papa est mort, décédé, le pensionnat ne dispose pas de budget pour vous envoyer à la maison pour les funérailles. Alors voilà. Voilà la mauvaise nouvelle. Et ça a terminé là. On n'a même pas eu l'occasion de dire un dernier au revoir à mon père. C'est ça qui m'a enragé. Et j'ai encore cette rage aujourd'hui. Et je pense que c'est ça, moi, dans mon cœur, moi, qui a fait en sorte que moi, je m'en suis sorti de tout ça. Alors, je me suis dit, si je dois passer mes 5, 10, toutes ces années ici, mais je vais essayer de prendre tout ce que je peux prendre de cette expérience et m'en servir par la suite.
Récemment, le gouvernement canadien a envoyé de l'argent pour dédommager les dizaines de milliers d'expansionnaires. Parfois, ces sommes ont aggravé la vie dans certaines communautés aux prises avec la drogue et l'alcool. Roméo Saganache a choisi de donner son chèque à sa mère, elle qui a vu partir en pleurant ses 14 enfants. Claude Boivin, qui rêve un jour de démolir le pensionnat, ne voulait pas non plus de cet argent.
Puis tu peux pas oublier ça, là. Tu peux jamais oublier ça, même avec le plus gros chèque qu'ils vont te donner. 1 000 000 $, ils me donneraient, là. Ça règle rien. Moi, ils m'ont donné, exemple, 2 000 $. J'ai 3 enfants. J'ai donné de l'argent aux 3 enfants. J'ai dit, moi, je peux pas garder cet argent-là, c'est de l'argent sale. Je peux pas m'acheter quelque chose avec ça, moi. Je mérite un cadeau, là. Le cadeau va me rappeler le pensionnat.
La loi sur les Indiens a obligé les pensionnats. Ma famille a passé là, puis on passait l'âge d'en parler. Renfermés sans clé de l'intérieur qui ont créé. Trop de violeurs d'enfants, trop lâches pour s'excuser. Pas qu'ils envoient de l'argent de l'ordre du gouvernement sans aucune excuse pour les viols et les attouchements. Y'a de quoi de pas normal, puis c'est pour ça que j'en parle. Puis si ça te rend mal à l'aise, ben c'est à toi que je parle.
Finalement, le premier ministre du Canada, Stephen Harper, a décidé de prononcer des excuses aux ex-pensionnaires au nom du gouvernement. L'opinion de l'historienne Denis Delage.
Je crois que c'est un geste qui est symboliquement très important. C'est une manière d'abord de reconnaître l'erreur, de reconnaître une responsabilité du gouvernement comme gouvernement et en plus comme légalement tuteur des Indiens pour avoir en somme, maltraiter ses citoyens et légalement ses pupilles. C'est une manière de dire aussi, nous n'allons pas recommencer. Quand on exprime ses excuses, c'est qu'on a des regrets. C'est une manière de rejeter cette part de l'héritage colonial. Et il faut souhaiter que ça soit une manière d'élargir la réflexion sur le rapport colonial et de une manière d'arriver à le remettre en question plus globalement et une manière d'avancer vers une reconnaissance de l'autonomie des Amérindiens.
Ça peut avoir une importance certaine sur la question des relations entre le gouvernement canadien et nos communautés, finalement.
Ghislain Picard dirige l'Assemblée des Premières Nations pour le Québec et le Labrador. Ce chef autochtone considère les excuses du gouvernement importantes, surtout pour les Amérindiens qui ont subi l'expérience des pensionnats. Pour la suite, il reste prudent.
Je pense qu'on a appris, évidemment, à faire les choses à petits pas. C'est l'histoire qui nous a enseigné ça, finalement. La grande majorité des peuples autochtones au Canada sont patients. Bon, il y a toujours cette situation-là qui perdure, où il y a une égalité évidente entre nos communautés et la majorité canadienne. Ce qu'on peut espérer, c'est que les excuses, si elles sont présentées de la façon qu'on s'y attend, puissent permettre au gouvernement fédéral de revoir sa politique, de revoir sa façon qu'elle entretient le lien, la relation avec nos communautés. Et finalement donner cette espèce de volonté d'accéder à des gouvernements plus autonomes un réel sens.
Pour l'instant, les excuses canadiennes ne semblent pas avoir l'importance de celles organisées par l'Australie il y a quelques années pour les aborigènes. Les organisations autochtones n'ont pu participer à l'élaboration du texte. Tous attendent donc les mots que va prononcer le Premier ministre. Ces excuses surviennent alors qu'une commission Vérité et Réconciliation vient de se mettre en place au Canada. D'ex-pensionnaires doivent y prendre la parole pour raconter leur histoire et réclamer des comptes au système étatique qui leur a coûté leur enfance et une partie de leur vie. D'autres voient cette discussion publique comme un moyen de tourner enfin la page. Samian, le rappeur algonquin, lui, a choisi de faire avancer les choses en musique. Il a tissé une alliance avec ses confrères québécois de Locolocas. Grand reportage, Pascal Guéricola, une réalisation de Marc Minatel.
Rappe pour les miens jusqu'à ma mort parce qu'on est mis à part.
Ils vont, y'a ceux qui savent pas ce qu'ils font. Y'en a qui battent des ailes et y'en a qui touchent le fond. Fuck that, j'fais partie de ceux qui veulent se battre, de ceux qui mangent la claque. J'en donne et j'en reçois, mais y'a pas de soi, ni un échinable. C'est pour ça qu'on me rejette, peu importe où j'mets le pied. Yo, j'suis mêlé, viens m'aider, j'suis mal pris, j'l'ai mal dit, j'te métis. Y'en a où pour certains c'est une maladie. Y'a du racisme des deux bords, mais au champ de bataille, j'suis du bon côté de la médaille. Je suis un Amérindien, j'ai pas besoin qu'on me dise d'où je viens, j'apprends par moi-même, je reviens avec mes propres moyens. Je suis prêt pour la guerre, je laisserai personne derrière et je vais me battre jusqu'au bout comme un militaire. Le monde est rendu fou depuis le nouveau millénaire, tous devenus des accros au système monétaire. Le monde sans terre, autant de monde sans terre, reste debout, pas par terre.